Donc on part du XIXe siècle avec la grande époque de la colonisation entre les grandes puissances européennes, essentiellement la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, avec aussi un jeu propre du roi des Belges qui va se tailler un grand morceau d'empire au cœur de l'Afrique. L'Allemagne aussi développe un empire colonial. Et c'est elle qui va se trouver dans cette région des Grands Lacs, qui va arriver en 1990, à peu près en même temps que les missionnaires, et qui va coloniser le Rwanda jusqu'en 1914. Il faut absolument lire un livre fondamental pour tout occidental, Exterminer toutes ces brutes, de Sven Lindqvist, parce qu'il montre que à cette époque, toute l'idéologie occidentale, les grands savants occidentaux étaient convaincus d'une idéologie raciologique, raciste, de la supériorité de la race blanche, et qu'ils sont arrivés dans ces pays avec cette représentation raciale. Ils pensaient que c'était même lié à la forme du visage. On prenait des compas, on mesurait, etc. On s'est dit, les êtres humains sont différents de par leur constitution morphologique. Et ils ont été frappés, les Allemands, mais les Français et les Britanniques faisaient la même chose, par la différence de stature, de morphologie entre les pasteurs, c'est-à-dire les Tutsis, et les éleveurs, c'est-à-dire les Hutus. Alors, du coup, on a fait des tas d'interprétations comme quoi certains venaient du Nil, et même, puisqu'ils semblaient mieux organisés, plus élevés dans la hiérarchie, que c'était finalement une forme de dérivée de la race blanche. Pour annuler tout de suite cette objection, on peut simplement faire remarquer qu'il y a un problème dans l'histoire de France et que nous ne sommes pas les fils de nos ancêtres, puisque en fait, si on regarde les statistiques de taille au niveau du service militaire, nous faisons en moyenne 15 cm de plus que les conscrits de 1850. Donc, quelque part, il y a eu une rupture radicale dans la race. Bon, tout simplement, il y a des problèmes d'alimentation, il y a tout un tas de facteurs qui ne sont pas des facteurs raciaux. Et puis, la raciologie a connu un échec retentissant, y compris les raciologues se sont rendus compte qu'elle ne menait nulle part. Mais enfin, peu importe, c'était la représentation dominante à l'époque. Et donc, les Allemands qui ont colonisé jusqu'en 14-18, ils ont été vaincus, ils ont été remplacés par les Belges. La France, elle a hérité d'un morceau du Cameroun, du Togo. Enfin, on s'est partagé l'Empire allemand. Les Occidentaux, Allemands puis Belges, et puis je rajouterai l'Église avec les Pères blancs, parce qu'en fait, la Belgique, en quelque sorte, sous-traitait une grande partie de l'administration de ce pays aux missionnaires et à l'Église, ont continué avec ce regard raciologique et avec une forme aussi d'indirect rule, ont confié la direction, se sont adjoints pour la direction coloniale du pays, les Tutsis. Donc, les mettant en quelque sorte dans le rapport colonial, dans une position de représentant du colon, ce qui a forcément avivé des oppositions qui étaient jusqu'alors complexes, parce qu'on était en fait les conflits qui existaient avant l'ère coloniale dans cet état pluriséculaire, très ancien au cœur de l'Afrique, étaient des conflits plutôt entre clans locaux et où il y avait en permanence les Hutus et les Tutsis d'un clan qui luttaient contre un autre clan, mais on n'était pas du tout dans cette espèce d'opposition qu'on peut dire de classe qui a été instrumentalisée ensuite en opposition de race. Alors, tout cela n'était pas très grave jusqu'au moment où, vers l'indépendance, dans les années 50, les Tutsis qui occupaient les places principales, qui avaient reçu la meilleure éducation, ont commis deux crimes, l'un envers l'Église qui était de demander la laïcité de l'enseignement et l'autre envers la Belgique qui était de demander l'indépendance. Du coup, la Belgique et l'Église ont changé de stratégie et se sont mis à promouvoir ce qu'on appellera plus tard le Hutu Power, c'est-à-dire l'accès au pouvoir de la majorité Hutu de la population à travers ce qu'ils appelaient une révolution. Donc c'est assez paradoxal puisqu'il s'agissait d'une Belgique atlantiste et conservatrice et d'une église qui l'était également et qui ont promu une révolution, une espèce de théologie de la révolution qui n'était pas une révolution de classe mais une révolution de race. Et ça a définitivement, si on peut dire, pourri la lecture des faits par les uns et par les autres. On a créé, de manière extraordinaire, des races en quelque sorte artificielles à l'intérieur d'un pays où tous les gens ont la même religion, la même langue, la même culture. Et des officiers belges formés à l'école de guerre française, formés aux techniques de la guerre d'Algérie, ont instrumentalisé ce conflit ethnique avec déjà des dizaines de milliers de morts et l'exil d'une forte proportion des Tutsis et la mise en place d'un pouvoir Hutu qui était un pouvoir pratiquement d'apartheid. Et donc c'est là que le drame du Rwanda s'est initié. Et là-dedans, la France a mis les pieds en 1975 sous Giscard, avec une coopération de gendarmerie, mais là déjà extrêmement curieuse, puisque le ministre de tutelle de cette coopération militaire n'était ni le ministre de la Défense, ni le ministre de la coopération, mais je crois le ministre de l'équipement, enfin je ne sais plus son titre exact, Robert Gallet, qui était en fait l'un des patrons du nucléaire français. Ce qui fait que on se pose toujours la question, personnellement je suis persuadé qu'il y a des éléments très importants de la tragédie rwandaise et des raisons de la présence française qu'on ne connaît pas encore, on se pose toujours la question du pourquoi de cet exceptionnel investissement de la France jusqu'à se rendre complice d'un génocide dans ce pays.